Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Un Regard Croisé avec Arlette Farah
et Fulgence Blanc.
Comment vas-tu, Fulgence?
Je vais bien avec ce mardi ensoleillé.
Oh, c'est trop bien, trop bien, 18 degrés dehors.
Vous ne la voyez pas, elle est déjà habillée en été.
Oui, oui, hein. Moi j'ai sorti la chemise colorée, le blouson en cuir, enfin bref.
Tenue d'été,
tenue de fin de printemps.
Voilà, fin de printemps. Voilà.
Même si je dois le ranger dans deux jours, mais bon, on va faire avec. Alors aujourd'hui,
aujourd'hui.
Une journée un peu spéciale, une émission un peu spéciale. On reçoit une auteure conférencière et formatrice et qui est, alors je vais essayer de le dire comme il faut, Blue Chief Happiness Officer. Et Jennifer Vigneault est spécialisée en orientation durable, en life designing. Elle va nous expliquer dans un instant ce que ça signifie. Le bien-être professionnel et l'entrepreneuriat de sens. Vous sentir bien dans un endroit où vous travaillez. Donner le meilleur de vous-même, savoir faire ressortir le meilleur de vous-même. Donc, elle travaille avec des entreprises et des particuliers à ce sujet-là. Elle va nous expliquer ça plus avant. Et ça nous intéresse aussi pour nos réclamations futures, n'est-ce pas, Fulgence?
Oui.
Alors, on part. Fulgence est tellement occupée là qu'il ne se rend pas compte quand je le plaisante. Donc,
on va en musique.
On va en musique, oui. Avec un groupe qui s'appelle Grenzme. Et qui nous chante une merveilleuse chanson qui s'appelle Zazakel.
Zazakel, rêve ou de vie, rêve en zèle, vive ou trêve mon Zazakel. Grand-mère, j'aimerais être aviateur, échanger mon cartable contre des ailes, m'envoler comme les hirondelles, me jeter de la falaise, sans peur. Grand-mère, mais c'est quoi réussir? Est-ce que ça passe par l'école? Je veux dire, les notes et les récoltes de points, de rangs, de rétrécir. Moi, j'aimerais planter des fleurs, tu vois. Comme celles au jardin de ton cœur, planter au lieu de défleurir. Voir pousser avant de cueillir. Paraît qu'il faut nous protéger. Paraît que pour ça, il y a l'armée. Grand-mère, j'aimerais être soldat. Pour protéger des bégonias. Rêve votre vie, vive votre rêve, rêve en zèle, Zazakel. Rêve votre vie, rêve en zèle, vive votre rêve, mon Zazakel. Monsieur, qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous tirez pour protéger, quand vous nettoyez nos quartiers, ou quand sur les Champs-Élysées, les gens se pressent pour applaudir, ou même l'église pour vous bénir. Tu sais, petit, ce n'est pas facile d'appuyer sans réfléchir, tu vois, c'est de l'entraînement pour arriver à faire semblant. Et puis moi, je voudrais pas qu'un jour tu fasses comme moi, pour une retraite anticipée, que tu t'étouffes pour ne pas rêver. Rêve ou de vie, vive ou de rêve, rêve en zèle, Zazakel. Rêve ou de vie, rêve en zèle, vive ou de rêve, mon Zazakel. Monsieur, moi j'aimerais être comme vous, pouvoir conduire cette grosse voiture et sentir pendu à mon cou ces belles de nuit aux douces voilures. Moi j'aimerais avoir un jacuzzi et une piscine à vagues. Je mettrais à flot mon petit bateau et je soufflerais sur ces grands voiles. Tu sais, petit, ça me fait du bien de parler de tout et de comme à mon fils, car je n'ose pas bien sourire au mien. Mais tu sais, les piscines, c'est comme les cerveaux. Les vagues se cognent sur les rebords et sur ces rebords s'en vont échouer.
Nos petits bateaux, comme nos idées. Rêve ou de vie, vive ou trêve. Rêve en zèle, mon Zaza Kay. Rêve ou de vie, rêve en zèle.
Alors, nous sommes avec Jennifer Vigneault. Bonjour, Jennifer.
Bonjour.
Allô.
Bonjour, Jennifer. Bonjour.
Je dis à Fulgence, alors, je dis aux auditrices et aux auditeurs que nous appelons Jennifer. Elle est à l'île de la Réunion, ce qui fait que pour elle, c'est quoi, 1h du matin, 2h du matin?
Oui, en fait, il est 1h du matin.
1h du matin. On te remercie 10 000 fois de nous répondre à cette heure-là. Vraiment, c'est...
Non, mais je t'avoue, c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel, on sait bien. On le prend comme tel. Jennifer, on a fait une présentation en début d'émission de qui tu étais, ce que tu faisais, et on va te demander une explication du life designing, qui est qu'on peut traduire comme quoi, créer sa vie, la construire, la faire.
Alors, oui, c'est vrai que moi j'aime bien la définition créer sa vie, j'aime bien le processus de création. La définition officielle, originellement, c'est construire sa vie. Et c'est vrai que j'y ajoute une touche de création qui pour moi est importante.
Mais alors explique-nous un petit peu plus ce que tu fais avant qu'on aille plus en avant dans notre questionnement pour expliquer aux auditrices, aux auditeurs. Moi je sais que c'est fabuleux, mais il faut leur dire.
Oui, alors en fait, en quelques mots, c'est vrai que ce que je fais, moi ce qui me passionne personnellement, c'est vraiment d'aider les individus à redonner du sens au travail, et en général d'œuvrer pour qu'on remette du sens dans nos vies professionnelles, parce que profondément il y en a besoin,
oui.
À la fois pour l'individu, c'est vrai que c'est difficile de regarder autour de nous, puis de voir les nombreuses personnes qui aujourd'hui justement ne trouvent plus de sens, les jeunes aussi. Enfin, si on regarde les chiffres, c'est assez
triste,
en fait. De nombreux jeunes se demandent comment ?
C'est catastrophique.
Oui.
Parce que...
J'ai pas entendu, pardon.
Oui, vas-y, parce que quand on est là-dedans, justement, une fois que tu nous auras été plus avant dans l'explication de ce que tu fais, je voulais te demander, justement, en rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, est-ce qu'il y a des...
Oui.
Changement.
Est-ce qu'il y a des changements actuellement par rapport à ce qu'on vit
Par rapport au travail que tu as fait jusqu'à maintenant dans des entreprises ou avec des particuliers, et aujourd'hui, avec ce que l'on traverse, tu dois voir du changement.
Alors oui, en fait aujourd'hui, ce qui est extraordinaire à la fois, enfin difficile, parce que on observe aussi tout ce constat actuel de manque de sens, que ce soit à l'échelle de l'individu, des organisations ou de la planète. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'utopie d'hier, en fait, parce qu'aujourd'hui, enfin, hier, c'était encore considéré comme une utopie, de se dire, ah bon, mais on peut faire quelque chose qui nous épanouit et qui a du sens. Aujourd'hui, les sciences nous ont montré que c'était devenu une évidence, puis une urgence, en fait. Donc oui, c'est ça qui change aujourd'hui, c'est finalement cette approche de remettre le sens au cœur de nos métiers et puis au cœur de nos vies en général d'ailleurs, est devenue une évidence à la fois scientifique. C'est extraordinaire, en fait. Ces dernières années ont apporté, les sciences ont confirmé quelque chose qui était pourtant à l'époque déjà porté par de nombreuses personnes. Et du coup, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent, j'ai envie de dire pionnières, mais c'est même plus le cas, j'ai envie de dire, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les entreprises qui ne le font pas, que je considérais moins de pionnières, on va dire.
D'accord.
Mais oui, il y a un grand changement qui se fait, que ce soit à l'échelle de l'individu, des organisations, et heureusement, et voilà, puis encore, il y a encore beaucoup de chemin, mais en tout cas, ça bouge, c'est vrai que ça bouge.
Ça fait combien de temps que tu fais ça?
Ça fait combien de temps que je fais ça? Alors, elle est belle, cette question, parce que je pourrais te répondre de plusieurs manières. Je pourrais te dire, ça fait 7 ans, concrètement, je transmets, on va dire que je transmets, que je forme des acteurs de l'orientation durable et du bien-être professionnel, que je forme ces futurs, on va dire, les conseillers d'orientation et puis acteurs du bien-être professionnel. Mais à la fois, j'ai envie de te dire, bah, tiens, c'est un sujet qui me passionne depuis que mon grand-père me parle quand j'étais petite. Donc, et c'est ça, en fait, pour moi, un métier. D'ailleurs, c'est magnifique, tu vois, ta question. C'est toute une réflexion sur le travail. C'est quoi nos métiers? Et à mes yeux, nos métiers, justement, ont des racines dans notre enfance, dans ces sujets qui nous passionnent particulièrement, et on en a tous.
Oui.
Et justement, voilà, de retrouver ces zones d'expertise qu'on a tous, singulièrement, individuellement, et de les remettre au cœur de nos métiers.
Et ça a dû être un sacré changement dans la mentalité pour faire comprendre à des gens, enfin je vais essayer de le faire très simplement, faire comprendre à des gens, oui, qui soient patrons d'entreprise ou qui travaillent dans cette même entreprise, qu'on avait la possibilité de faire quelque chose que l'on aimait ou d'être fort dans ce qu'on aimait et d'être représentatif de ce qu'on était capable de faire. Et ils devaient penser que c'était une utopie. T'as pas
Alors,
eu affaire
oui,
à ça
qui... Enfin voilà, si. Il y a encore des grands sceptiques. Il faut pas leur en vouloir parce qu'ils ont été, ils ont construit en fait tout leur développement d'entreprise sur des anciens modèles. Et c'est pas ce qu'on leur a appris à l'époque. En fait, on leur a appris que le contrôle, que fonctionnait très bien et que en fait on faisait réussir une entreprise en, j'ai envie de dire, avec la carotte et le fouet, en fait. Mais aujourd'hui, ce que les sciences nous montrent, c'est justement que quand on veut que... Enfin, alors, ça va loin, j'ai envie de dire, à l'échelle individuelle, si on veut qu'un individu donne le cœur de sa motivation et aille au bout de lui-même, et puis, pas au bout de lui-même, pas dans le sens négatif, mais se donne entièrement dans son métier, il y a 3 grands ingrédients, et la carotte et le bâton n'en font pas partie. Il y a justement se sentir libre de ce qu'on fait, se sentir compétent et surtout avoir du sens, ouais, sentir qu'on fait quelque chose qui a du sens profondément. Et ça, ce sont 3 vrais ingrédients de motivation intrinsèque. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise aussi ont un besoin de se former aussi, de s'ouvrir à ces nouvelles découvertes scientifiques. Et oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus... qui ont envie d'être plus ouverts que d'autres. Il y en a qui ont beaucoup de mal à se détacher de leurs anciens modèles, et puis oui, d'autres qui, au contraire, prennent le nouveau train.
Alors là, on parle du côté de ceux qui dirigent, mais il va y avoir aussi ceux qui travaillent, et ceux qui travaillent ont peut-être des appréhensions à dire ce qu'ils ont à dire devant leur direction, ou ce qu'ils préféreraient.
Alors oui, il y a un beau mouvement de job crafting, on appelle ça, où justement les salariés sont invités à être acteurs de leur travail. Parce qu'en effet, faire ce qu'on aime dans sa vie, ça peut en effet se dire, allez, je vais créer mon projet et puis le faire de manière indépendante, ou être salarié et avoir envie de rester dans une entreprise existante. Et voilà, et auquel cas, j'ai envie de dire que c'est la même chose, c'est la même approche du travail.
Ah, oui.
On va se mettre notre singularité au cœur de notre métier, et on mettre le sens toujours, pour moi c'est 2 ingrédients inséparables. Et juste, il y a un paramètre supplémentaire quand on est dans une entreprise, c'est éventuellement la hiérarchie. Alors, ça dépend aussi des organisations. Maintenant, il y a des gouvernances partagées où c'est pas le cas, mais là, je parle sur des hiérarchies plus...
Oh, je t'entends plus. Allô? Est-ce que nous avons perdu Jennifer, donc on va la rappeler. Il faut voir que nous sommes à l'île de la Réunion, donc le temps de... Oui. On va en parler ensemble, Fulgence, en
attendant,
parce que tu avais une question, mais tu la poseras tout à l'heure.
Oh, ouais, voilà.
C'est ça que je voulais savoir, c'est que quand on est en entreprise, quand on est embauché dans une entreprise et que la direction invite quelqu'un pour qu'on améliore la situation de la société et la situation qu'il y a en interne avec ceux qui travaillent, ça paraît un petit peu difficile, tu penses pas, quand t'es employé et que tu as des choses à dire, mais tu sais pas comment ton patron va le prendre.
Il faut que le patron soit moins résistant, il faut qu'il s'adapte aux nouvelles, à ces nouvelles méthodes de oui. bien-être professionnel, personnel et entrepreneurial. Alors, ça permet aussi aux employés d'être épanouis. Hein.
Ben oui, tout
en,
à fait.
En gros, le bien-être, c'est quoi? C'est l'épanouissement des employés au cœur.
On verra bien. On va parler à notre patron une fois qu'on aura eu Jennifer.
C'est la question que je voulais vous poser d'ailleurs.
Alors, ça a coupé juste un petit peu quand on parlait justement des employés.
Oui.
Non, mais écoute, c'est déjà nous qui te réveillons très très loin. Donc,
c'est pas... voilà, je peux lui poser ma question.
Mais vas-y, pose ta question,
voilà,
Fulgence.
Voilà, je voulais savoir. Mais, Jennifer, au fait, les patrons que tu as rencontrés. Je sais qu'il y a eu certaines résistances, bien sûr. Comme tu l'as dit, ils sont mariés avec l'ancien système. C'est des gens qui ne veulent pas changer grand-chose. Hein. Ils ont été formés comme ça et c'est comme ça qu'ils ont mis leur entreprise qui leur apporte beaucoup, 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 beaucoup d'argent sur pied.
Oui, mais il y a un moment alors, donné où elle rapporte plus.
Voilà, comment tu arrives à les convaincre?
Alors en fait, souvent, quand on parle avec ces chefs d'entreprise, encore une fois, ils sont bourrés de bienveillance, ils n'ont qu'une envie, c'est que leur entreprise fonctionne, ils ont envie de c'est pas le cas pour tout le monde.
Oh oui, c'est pas le cas de tout le monde.
On va partir d'une belle entreprise.
Oui, on va partir de quelqu'un qui en a envie.
Oh là. Voilà. Tu ne pas prendre tous les extrêmes.
Oui. Qui a envie que, voilà, on va au moins dire, au minimum, qu'il a envie que son entreprise fonctionne et il a envie qu'elle soit performante.
Oui.
Et juste sur cet argument-là, aujourd'hui, les évidences sont pareilles. Il y a des dizaines d'études qui montrent qu'un salarié plus épanoui, plus motivé, va avoir un impact sur la performance de l'entreprise. Alors justement, il y a des arguments financiers qui des fois convainquent. Alors, il suffit. Je trouve ça dommage d'ailleurs parce que je trouve que l'argument du sens et de l'épanouissement devrait suffire. Mais en effet, c'est pas le cas et ça suffit pas toujours. Et c'est pour ça qu'en effet, là, il y a des arguments financier très palpable, en fait, tout simplement qu'un salarié plus heureux, il y aura moins de turnover dans l'entreprise, les risques psychosociaux seront moindres, ce sont des chiffres énormes, en fait, enfin, c'est une économie extraordinaire pour les entreprises, juste de les rendre heureux. Alors, on ne devrait pas avoir besoin de ces arguments, mais en effet, ce sont des fois des arguments qu'on met en avant pour certaines personnes qui ont encore besoin d'être rassurées par la réussite économique de leur entreprise. Et comme l'individu, c'est pareil, en fait, un individu qui va se dire, mais faire ce que j'aime dans la vie, mais il faut bien que je gagne ma vie.
Oui.
Et c'est pareil, en fait, parce que le plus beau pari d'une personne, c'est justement de faire ce qu'il aime, parce que c'est là notre plus belle valeur ajoutée. Et si on se rappelle de ce qu'est un métier originellement, c'est de pouvoir offrir, enfin, c'est comme si je me dis, un arbre qui fait des mangues, son métier, ça va être de transmettre des mangues. Et ça ne va pas être de transmettre des litchis parce que le marché du litchi fonctionne bien, en fait. Il va bien sûr offrir sa valeur ajoutée, ça va être qui il est profondément. Donc le manguier, son métier, ça va être de transmettre des mangues, comme nous, en fait. C'est là où il y a un travail de se rappeler que la plus belle valeur ajoutée, et là où on va pouvoir profondément gagner notre vie de manière durable, c'est sur qui on est profondément. Vous voyez ce que je veux dire? Ça semble logique quand on en parle comme ça et quand on voit comment la nature fonctionne. Mais quand on regarde comment fonctionnent nos organisations, parfois on a fait les choses à l'envers.
Oui. Tout à l'heure, tu sais, quand on t'a appelé, on s'était mis ensemble au courant. Tu as eu la gentillesse de me faire passer des chansons et on a écouté Zazakel. Et je voulais qu'on en parle un petit peu aussi et du lien que ça pouvait faire avec ton travail. De ce qui est dit dedans.
Alors oui, c'est vrai que Zazakel. Alors Zazakel, c'est vrai que c'est un morceau qui me touche particulièrement. Vous voyez le dialogue entre un enfant et sa grand-mère, en fait.
Oui.
Un enfant qui questionne le monde naïvement, comme on peut tous le faire, en fait. Et c'est vrai que si on questionne le monde et qu'on se dit, au final, c'est quoi réussir? Justement, il dit, est-ce que c'est une récolte de points, de notes? de devenir, ou est-ce que finalement c'est d'être heureux, et quel est le sens de la vie? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Là, on parle d'épanouissement professionnel et de sens, mais c'est exactement se reposer les questions les plus importantes qu'on nous pose, hélas, peut-être pas assez souvent à l'école. C'est se rappeler vraiment de l'essentiel de ce jeune garçon qui interroge sa grand-mère et les adultes, et qui leur dit, au final, est-ce qu'il faut que j'accumule des choses, est-ce qu'il faut que je fasse justement d'être juste, que je réussisse pour, c'est ça en fait, réussir dans la vie. Et justement, la grand-mère qui lui dit, mais non, reste à vie et vis ton rêve, parce que c'est ça mon enfant, la réussite. Et qu'au final, c'est vraiment important de remettre cette part de rêve. Alors, vu qu'on dit, on parle de rêve, on dit, oh là là, ouh, c'est mignon tout ça. Mais non, c'est pas mignon, c'est même scientifique en fait. C'est ça qui est extraordinaire en fait.
Oui.
De remettre du rêve au cœur de nos vies, c'est devenu une urgence. Et puis de remettre de l'utopie au cœur de nos vies, c'est essentiel. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Pour les plus sceptiques qui même ne croiraient pas à ces évidences scientifiques, on se dirait, ok, mais moi personnellement, je préfère vivre une vie à essayer de réaliser quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Utopique, plutôt que de me dire, allez, c'est foutu, de toute manière, abandonnons, hein. Et puis. Et on n'y arrivera pas. En fait, c'est vraiment de remettre du sens dans ce qu'on fait, de faire notre part, et puis de le faire. Et s'il y a 7 milliards de parts qui se cumulent, c'est extraordinaire, en fait. Ça va loin, en fait. L'épanouissement, c'est plus... quand je parle d'une urgence, je pense vraiment qu'il y a besoin de 7 milliards de solutions aujourd'hui. On n'a pas besoin de solutions de 7 personnes à la tête du gouvernement. Je pense vraiment qu'on a besoin de 7 milliards de solutions, de 7 milliards d'individus. Et en fait, qu'on a besoin de cet écosystème d'êtres humains, de cet écosystème de singularité, de cet écosystème de ce que chacun a apporté. Sans vérité, sans celui qui a raison, qui a tort, pas du tout. Dans la nature, il n'y a pas de ça. Pareil, on ne va pas dire, tiens, cet arbre-là, le manguier, justement, c'est celui qui a raison, parce que lui, il se trompe. On ne va pas fonctionner comme ça.
On n'est pas le même arbre, nous. On a chacun un arbre différent, mais c'est ce qui fait le nom de notre émission de Regards Croisés. Jennifer, ne perds pas ton enthousiasme, on te retrouve tout de suite après, mais là, on va partir en musique, parce qu'on va toujours écouter une autre chanson qui s'appelle « Hors sol ». Et puis on écoutera après au retour, on va faire une petite pause et ensuite on revient tout de suite avec toi et on continue de parler de tout ça et au retour on entendra Timaric, toujours par le même groupe et on finira par la chanson que j'adore, Tu me manques, tu me manques déjà. Je l'aime aussi celle-ci. À tout de suite Jennifer, ne quitte pas.
À tout de suite. À tout de suite.
Nos vaches sont suspendues à un mètre du sol. Se souviennent du soleil, s'acclimatent au sous-sol. Les légumes que l'on sème voyagent plus que nous-mêmes. Et sur le trône, nos fesses rivalisent de blême. On pelouse nos jardins, nos allées, nos chemins. Et l'on passe notre enfance à se laver les mains. Il arrive que mon cœur, à l'approche d'un cyclone, soit content d'oublier les grandeurs d'un diplôme. L'espoir en nos enfants doit passer par l'école. Construisons des écoles où la terre est au centre. On bâtit nos mariages des enfants dans le ventre. On construit des maisons mais nos bases sont hors sol. Bébé hydroponique, tête aux gouttes à gouttes. Si nous regardons les arbres, c'est qu'on s'ennuie de la roue. Et je pense à ces livres qu'on ne doit raturer. On respecte les arbres, mais on ne sait les aimer. Hors sol. Hors sol. notre enfance à se laver les mains. Il arrive que mon cœur à l'approche d'un cyclone soit content d'oublier les grandeurs d'un diplôme. Sol, nos racines sont hors sol quand nos parents s'en vont. Hors sol, nos racines sont hors sol quand nos parents s'en vont.
Vous écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Ti mari qui rêve, il rêve la Réunion. Ti mari qui rêve, les sortes d'un béton.
Ti mari qui rêve, il rêve la Réunion. Ti mari qui rêve.
Ti mari qui rêve, ni décane la déan, sauf pour faire caillon, pour vivre d'un kéan. Ti mari qui rêve, ni détac la langue, pour nous prendre ma main, maloya descend. Ti mari qui rêve, il rêve la Réunion. Ti mari qui rêve, il sort d'un béton.
Ti mari qui rêve.
Marie qui rêve, ni décane la déan, pour nous plantes de riz, pour nous plantes de grains, même sans sa maïe, pour nous gain manger, au lexique nous dé, sans sa fin de l'engrais. Ti mari qui lève, là au bras bon doux, ti mari qui lève, où sont les animaux. Son carreau, ti piments oiseaux, ti mari qu'il aime, même si les gars pris, même si soleil là, au fatigali, ti mari qui rêve, il rêve la Réunion, ti mari qui rêve, les sortes d'un béton,
ti mari qui rêve, il rêve la Réunion, ti mari qui rêve, les sortes d'un béton, ti mari qui rêve. Il rêve la Réunion.
Alors vous venez d'entendre Grenzemé qui nous chantait Timaric. Vous avez dansé, ben moi aussi, sur ma chaise. Tu es toujours avec nous, Jennifer ?
Oui, toujours. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire ? Avant qu'on commence, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Timaric ?
Alors, Timaric, c'est le nom d'un... Alors, on dit un gramophone ici à La Réunion, le nom d'une personne âgée, ici.
D'accord.
Qui rêve, justement, qui rêve de voir La Réunion qui sorte du béton. Enfin, après, je pense qu'on peut calquer ça sur de nombreux pays dans le monde. Et justement, qu'on a rêve de bétonner de, en général. Et puis voilà, c'est le rêve de Timaric, justement, qui veut revenir à la simplicité et un peu, enfin voilà, se réenraciner.
Se réenraciner.
Bon, alors. De notre environnement.
J'allais commencer mon questionnement. Aussi avec une phrase que tu as dite, un texte que tu as dit, c'est « Le bonheur au travail devient une nécessité. Les entreprises de demain seront celles qui sauraient allier l'épanouissement de l'individu avec celui du monde. » Et dans la façon de créer les métiers dont le monde a besoin, tu parles de s'inspirer de la nature. Alors, voilà, oui. Je te laisse la parole là-dessus.
Oui, ben, en fait... Tout simplement, la nature, c'est, comme le dit merveilleusement Janine Bénis, qui est une experte en biomimétisme, elle va nous dire, bah, tiens, okay, la nature a plusieurs milliards d'années d'avance en recherche et développement sur nous. Tous les écosystèmes qui font qu'aujourd'hui nous sommes nous-mêmes vivants ont une expérience incomparable. Enfin, nous, vraiment, on arrive sur l'histoire du monde à 23h59, si on reproduisait ça sur une journée. Donc c'est vrai qu'il y a de nombreuses lois qui font justement que le vivant s'équilibre, que nos écosystèmes fonctionnent. Et quand on s'inspire de ces lois du vivant, qui sont vraiment mais passionnantes, enfin, je pourrais vous en partager quelques-unes. Par exemple, enfin, voilà, le vivant redistribue les surplus équitablement et partage les richesses. Ça, c'est une des lois du vivant, c'est ce qui fait que nous sommes même vivants. Si le vivant ne faisait pas ça aujourd'hui, nous, on ne serait pas là. Donc voilà, juste cette petite loi. C'est une simple loi, il y en a vraiment beaucoup. Hein.
Ouais, mais quelle importance vivant... quand on la reporte à nous ?
Oui, voilà. Exactement. Par exemple, voilà, le vivant se base sur la diversité. Qu'est-ce qui fait l'équilibre d'un écosystème, c'est cette diversité. Pour nous, c'est pareil. Alors, ça questionne sur l'école, ça questionne sur notre manière, hein, pas l'école en elle-même, hein, mais comment on peut justement insuffler et puis conserver cette diversité si précieuse pour l'écosystème, mais l'écosystème de tout. Je parle de l'écosystème au pied de la nature, l'écosystème d'une entreprise, l'écosystème d'une famille, l'écosystème d'un pays. Et c'est là, en fait, où c'est pertinent, justement, de revaloriser cette diversité pour et s'inspirer des lois du vivant en général qui sont pérennes, durables et qui, en tout cas, ont fait plus leur preuve que les nôtres.
Je trouve ça tellement... Vas-y, Fulgence, pardon.
Ah, oui, je trouve ça... Non, comme tu l'as dit, si les humains pouvaient appliquer cette loi... Oh, non, c'est vrai, mais est-ce qu'il va falloir vraiment un bon réveil quoi, parmi nous, les humains, nous qui respirons, mais... qui vivons sur cette terre, et si ça pouvait arriver.
J'ai l'impression que toi, tu le vois plus loin que moi.
Ouais.
Moi, je serais plus proche de ce que fait Jennifer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on ne le croit qui s'éveille.
Qui le font déjà.
Qui s'éveille certaines choses. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, alors c'est vrai que moi, plus je suis dans ce milieu-là et plus en effet je rencontre des gens, des décideurs qui sont dans cette dynamique-là, vraiment, c'est une réalité. Et c'est vrai que généralement le monde extérieur reflète aussi nos convictions intérieures, et puis plus on est à l'affût justement de ce qui se fait, et plus en effet on rencontre des construits, des pionniers demain. Mais c'est vrai que il y a encore beaucoup à faire. C'est une transition. Enfin, on est vraiment dans une phase de transition. Et je trouve ça important de garder ce cap justement lointain, enfin, comme vous disiez. Et il est important justement, c'est pareil, je vais encore prendre l'exemple d'un arbre qui a envie de se rapprocher du soleil. Il n'y arrivera sûrement pas, n'est-ce pas, mais peu importe en fait, c'est encore une fois d'avoir cet objectif et de le voir grand. Parce que oui, en effet, de s'inspirer de la nature, là c'est vrai qu'aujourd'hui quand on se dit bah, « ok, le vivant redistribue les surplus équitablement », on en est super loin et notre économie est... Il faudrait peut-être repenser notre infrastructure de base pour pouvoir répondre à cette loi-là. Mais justement, c'est inspirant. Et aujourd'hui, de nombreux, enfin tout le domaine du biomimétisme inspire des ingénieurs, inspire des architectes, mais inspire aussi des philosophes, des penseurs, des décideurs. Et voilà. Et en tout cas, les décideurs de demain vraiment ont une source de gestion durable en regardant les lois du vivant. Ce sont des lois de réussite. Mais si je parlais avec les mots aujourd'hui, le mot réussite, alors j'ai bien une signification qui m'est propre derrière, mais même si on parle de réussite, le plus bel exemple de réussite de l'entreprise la plus réussie dans le monde, c'est la nature. Quand on parle de réussite, on parle de production de richesse, ok, la nature gagne. On parle de pérennité, la nature gagne. On parle de en fait, sur tous nos critères de réussite, la nature est un exemple irremplaçable.
Complètement. On devrait la suivre. D'ailleurs, il y a des constructions, je veux dire, il y a des immeubles, même si on parle d'immeubles, il y a des constructions qui ont été faites d'appartements en fonction de ce qu'on avait vu. J'avais lu quelque chose sur le travail que faisait la fourmi ou sur des choses, sur la manière de vivre de certains animaux.
De construire la fourmilière, oui.
Ça ressemble un petit peu à ça, des moments qu'on construit d'ailleurs.
J'ai une question pour Jennifer encore.
Oui.
Jennifer,
oui.
Est-ce que c'est toi qui vas vers les entreprises ou bien c'est les entreprises qui viennent vers toi et les personnels, les individus? Est-ce que c'est toi qui, ou bien c'est les individus qui viennent vers toi? Comment ça se passe?
C'est aussi
la
publicité.
C'est une belle question. Alors pareil, je pourrais te répondre de plusieurs manières. Très concrètement, aujourd'hui, moi, je forme principalement des décideurs, des chefs d'entreprise, des conseillers d'orientation, des conseillers à l'emploi. Alors, je ne sais pas comment vous appelez ça sur Montréal.
Pareil.
C'est principalement des personnes qui, là, pour le coup, viennent vers moi, donc des professionnels, et qui viennent se former, et aussi à la fois des responsables de ressources humaines. Il y en a beaucoup qui se sont sensibilisés à ces sujets-là et qui viennent se former pour avoir de nouveaux outils, pour accompagner autrement leurs salariés. Donc oui, là, dans ce domaine-là, c'est vraiment les personnes qui viennent se former à ces nouveaux outils. Mais à l'époque, il fut un temps où c'était... en effet, je suis allée toquer à des portes. Alors aujourd'hui, moi, c'est pas du tout mon cœur de travail. Moi, je me concentre sur les recherches aujourd'hui, sur l'écriture, sur la création d'outils et de ressources pour justement ces professionnels qui ensuite agissent dans les entreprises. Et puis, pour ces futurs, j'appelle ça des blue chief happiness officers, qui interviennent auprès justement des salariés, des entreprises, des jeunes, des personnes en reconversion. Enfin bref, il y a tellement de domaines où on en a besoin. Mais voilà, moi je me concentre aujourd'hui vraiment sur la transmission auprès des professionnels qui, à leur tour aussi, et des décideurs qui, à leur tour, le transmettent. Et à la fois, on a ici des responsables d'université qui sont visionnaires, on a des responsables de région ici aussi qui le sont également. C'est très encourageant. Enfin, vraiment, je vois à l'échelle de la Réunion, quand je vois les personnes qui viennent se former à ces outils-là, on a beaucoup de décideurs qui voient loin et qui sont complètement qui cherchent justement des outils pour faire évoluer les choses au sein de leur institution, au sein de leur entreprise, au sein de l'université, au sein des écoles, au sein des lycées, parce que voilà, on a beaucoup de, j'ai envie de dire, de colibris qui agissent.
Mais t'en as aussi qui viennent de France ou d'ailleurs, enfin du monde, hein.
Oui. Alors oui, aujourd'hui, en plus, hein, on fait les cursus en ligne. Alors après, avec tout ce qui se passe actuellement, c'est devenu important. Oui, en effet, on a des personnes, beaucoup de métropoles. De métropoles, on appelle ça la métropole ici.
Oui.
Beaucoup de personnes en France qui en effet se forment et qui, pareil, interviennent dans les pôles emploi, enfin on appelle ça les pôles emploi, c'est comme des centres d'emploi nous ici, ou dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités, enfin voilà, c'est pareil. À La Réunion, ça, j'en parle spécifiquement parce que je connais beaucoup d'acteurs localement, mais c'est vrai que c'est une démarche et une dynamique internationale qui s'arrête évidemment pas à la France, qui s'arrête pas à La Réunion et qui touche. On parle de life designing par exemple. Aux États-Unis, c'est un des cours les plus populaires auprès des étudiants de l'école de Stanford, de l'université de Stanford. Donc c'est vrai que voilà, dans le monde entier, il y a des acteurs qui agissent, puis c'est devenu quelque chose qui. En fait, j'aime bien la phrase de Victor Hugo qui dit « Il n'y a pas plus fort qu'une idée dont le temps est venu ». Et je pense sincèrement que cette approche du travail, le temps est venu d'avoir cette approche du travail. Et c'est pour ça qu'il y a des dynamiques qui se créent dans le monde entier qui vont dans ce sens-là. Donc, c'est très encourageant, même si en effet, hein, si on regarde les infos, hein, je vois les mêmes infos que vous. Hein. Oui. et c'est pas ce qu'on voit. Mais voilà, je pense que les infos ne sont pas toujours représentatives de tout ce qui peut se passer. Mais c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'entreprises. Oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de... On est dans cette phase de transition où, comme toute utopie d'hier, il y a eu les premiers entrepreneurs, les premiers penseurs, les premiers pionniers. Alors, on n'est plus dans cette phase-là. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on est plus loin parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une demande.
On a déjà avancé.
Et une demande... Voilà, on a déjà avancé et on n'est pas encore sur l'adhésion de la masse. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on est déjà dans l'étape où c'est en train de
bouger.
Pourquoi ? Et parce qu'on les comprend aussi. C'est en train de bouger et parce que les personnes aussi cherchent de nouveaux repères. Ils veulent y croire à ça, mais en même temps, ils disent « Oui, mais ok, mais concrètement, on fait comment ? Comment on fait pour faire ce qu'on aime ? On ne nous a jamais appris ça à l'école. On nous a appris à travailler et puis travailler doit avoir un goût... On a un conditionnement sociologique de pénibilité. Si on ne fait pas la tête en travaillant, enfin, si en tout cas, ça n'a pas l'air pénible, c'est qu'on n'est pas en train de travailler, c'est qu'on est flemmard en soi. Donc, on a vraiment tout un conditionnement culturel aussi à faire évoluer. Et ça, ça commence à l'école, ça commence justement où à l'école, on a les temps de récréation puis les temps de travail. Alors, quand on s'amuse, c'est un temps de récréation, puis quand il faut travailler, on s'arrête de s'amuser. Alors que, justement, les sciences nous disent quoi aussi ? Elles nous disent que notre cerveau se développe là où on l'utilise avec enthousiasme. Du coup, si on veut vraiment des experts et puis des gens experts dans leur domaine et profondément source de solutions, on a besoin qu'ils s'amusent. Donc, on a besoin de passer peut-être plus de temps à la récré et un petit peu moins de temps en classe.
Mais ça paraît presque trop facile, sauf que quand on se penche sur nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Donc quand on se penche sur nous, en fait, c'est là où tout ce qu'on a appris, toute notre éducation, toute la façon dont on a été élevé, dont on a été dirigé, rentre en ligne de compte aussi.
Bien sûr.
C'est plus complexe de faire ça. Tu voulais demander un.
Oui,
petit...
oui, oui.
Il venait chercher là où ça fait mal.
Oui, vas-y.
Puisqu'on parle d'avancement, quelle est la place du politique dans tout ça ? Nos dirigeants, les dirigeants en Guadeloupe, et puis les gens, les politiciens que toi tu connais, qui t'entourent, qui gouvernent là-bas, les communes, les régions, tout ça, comment ils réagissent ? Est-ce qu'ils s'impliquent ? Est-ce qu'ils arrivent à se. Ouais. Apprends le voile, apprends le bateau avec toi, dans ta recherche.
Alors, les politiques, c'est quoi ? Enfin, si on parle de politiques, de dirigeants, en fait, ce sont des êtres humains moi, en fait.
Oui,
enfin,
oui.
Donc, je peux répondre à cette question sur tous les domaines. Pareil, je pourrais vous dire pour l'enseignement, l'éducation nationale, chez nous ici. Ça dépend de l'être humain qu'on rencontre, en fait. Et pareil pour les entreprises, en fait. Tout est une histoire d'être humain et de... Donc j'ai envie de vous dire, il y a des politiques qui sont absolument pas dans cette dynamique-là, et d'autres qui le sont, et qui ont à la fois ont des contraintes aussi actuelles et essayent de semer des graines possibles actuellement. Enfin, c'est vraiment en fonction de l'être humain qu'on rencontre, donc politique ou pas. Il y a des personnes qui sont vraiment sensibilisées à ce genre de choses, qui essayent justement de les mettre en place tant que possible, parce qu'il y a le politique, il y a l'organisation administrative, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, Et c'est ça qui est merveilleux aussi. Il n'y a pas une recette.
Il n'y a pas une recette miracle, c'est chaque fois en face de l'individu tel qu'il est.
Exactement. Il n'y a aucune recette miracle. Et les recettes miracles, si un jour quelqu'un donne une recette miracle, c'est un mensonge. Dans la nature, il n'y a pas de recette miracle. Par contre, c'est de la créativité.
Oui.
Et c'est ça en fait qu'on demande à l'individu. Pour justement recréer une approche du travail, on a besoin de créativité et de redonner cette créativité à chaque personne pour qu'elle puisse être source de solution.
Ben oui, c'est merveilleux. Dans les minutes qui nous restent à discuter avec toi aussi, est-ce que tu as un exemple à nous raconter d'un travail que tu aies fait avec un chef d'entreprise qui se serait trouvé stupéfait des résultats bénéfiques, je veux dire, hein.
Alors,
ça t'est arrivé parce que je te prends au dépourvu peut-être de te demander un exemple
j'aime bien. Alors, très concrètement, déjà, on avait fait une étude, il y a eu une étude scientifique sur l'impact de ce qu'on pouvait faire, parce que l'objectif, justement, à travers la démarche, c'était pas d'avoir une démarche utopique en se disant « Oh, c'est génial, regardez, on a changé le monde ». C'était vraiment d'apporter des arguments scientifiques pour justement s'adresser aux institutions, s'adresser à l'éducation nationale et puis vraiment de changer les choses en profondeur. Donc on a fait des études scientifiques, puis fait argumenter par de nombreux arguments scientifiques. Et oui, alors pour un exemple, j'essaie de choisir, parce que là je pense spontanément à quelqu'un, mais j'essaie de voir s'il n'y a pas un exemple plus parlant. Alors très sincèrement, les personnes qui ont fait cette démarche, souvent à chaque fois quand ils viennent dans la formation, ils s'attendent à avoir un contenu tout cru, une méthode, vous voyez ce que je veux dire, elle est la méthode d'épanouissement professionnel, mais c'est pas du tout ce que je les invite à faire en fait. Souvent je les invite justement à faire un travail d'introspection et justement changer cet apprentissage qu'on a à l'université où c'est les profs qui enseignent. Moi, j'ai rien à enseigner, justement. On a juste une démarche, une dynamique qui permet à chaque individu d'aller plonger dans son singularité. Et là, si je vous dis, je pense à la directrice générale de l'université qui a fait cette démarche pour elle-même et qui était dans une évidence de transmission pour les autres et qui après justement l'a transmis à son équipe au sein de l'université. Donc je pense à une autre responsable qui s'occupait du tourisme pareil à La Réunion, bon, qui elle avait une expérience très difficile dans le milieu professionnel et qui était échaudée, qui avait profondément mal. Le nombre de personnes qui viennent dans mes formations qui sortent de burn-out qui cherchent le sens profondément et qui se rendent compte justement qu'ils viennent chercher une réponse à l'extérieur et qui trouvent une réponse à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire, qui trouvent juste leur réponse, enfin une réponse qui à un moment se rebrancher à soi-même, c'est un goût d'évidence. C'est comme un manguier qui s'est ignoré toute sa vie. Je vais revenir sur mon manguier, mais même sur le poisson d'Einstein, qui disait on passe toute sa vie à penser, un poisson qui essaie de monter à un arbre, pensera qu'il est stupide. Bah, et c'est vrai, et en fait, c'est vraiment juste de reconnecter le poisson à sa nature, et après de lui dire, mais vas-y,
retourne
dans ton...
Ce que chacun de nous a comme capacité. Jennifer, nous arrivons à la fin de cette merveilleuse entrevue, qu'on a eu beaucoup de plaisir à avoir avec toi. Je voudrais savoir... comment on peut te contacter, te lire dans la dernière minute qui nous reste d'émission avant qu'on écoute Tu me manques déjà.
Ah, Tu me manques déjà. Elle est magnifique, c'est merci, magnifique.
Comment alors, on peut te joindre sur ton site?
Il y a un site internet, Youmean, Humean, justement, youmean.org, qui avait justement Youmean qui voulait remettre du sens au sein. Donc là, vous pouvez évidemment, il y a des formations, alors toutes les formations sont en cours, mais les prochaines seront liées en septembre de l'année prochaine.
Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. Tu peux aller te rendormir. Ça nous a fait très plaisir de te réveiller.
Merci. Merci beaucoup, Jennifer.
Merci.
Merci à vous deux.
Merci. Au revoir.
C'est un plaisir d'échanger avec vous. Ouais. Belle journée.
Merci.
Belle journée à vous.
Oui.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
C'est dimanche aujourd'hui. Deux oiseaux dans leur nid, dimanche c'est boulangerie. des pains au chocolat. Tu me manques déjà. Les journées à la plage, nos je t'aime à tout âge, nos blessures, nos folies, les ratures à nos pages. Tu me manques déjà. Nos soirées à penser au demain pour rêver, demain c'est aujourd'hui. Tes silences quelquefois, tu me manques déjà. Que je parte en premier par le train de la nuit au paradis sans toi. Tu me manques déjà.
Alors on vient d'entendre « Tu me manques déjà » par Graine Semée. Alors peut-être, c'est une merveilleuse chanson. En tout cas, moi, je la trouve fabuleuse comme les trois autres que nous avons entendues.
Très belle pièce.
Alors pourquoi on a écouté quatre chansons de ce merveilleux artiste, très poétique? C'est parce qu'il partage la vie de Jennifer Vigneault. Donc c'est la raison pour laquelle c'est elle qui me l'a fait connaître. J'ai trouvé ses textes des poèmes. Fulgence ne va pas me dire le contraire.
Je ne vais pas te contredire, j'allais croire que tu allais, tu allais dire... je crois que tu allais dire parce qu'il a une belle plume, il a des...
il écrit bien et chante bien, c'est des beaux textes qui sont émouvants, donc c'est un vrai plaisir de les entendre, très beaux messages. Donc c'est pour ça que nous l'avons écouté. Voilà, donc Fulgence, à la fin de cette entrevue, qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Moi, personnellement,
ce qu'on vient de vivre.
De toute façon, toi et moi, on n'a pas les mêmes opinions là-dessus. Tu penses que ça va très vite, mais je pense qu'on a beaucoup encore, on a beaucoup de chemin à faire. Il y a des gens qui s'y connaissent. Il y a des gens qui...
Je regarde le verre à moitié plein, Fulgence. Je me dis qu'il y en a qui commencent à bouger les oreilles. Et déjà, pour moi, c'est un signe de bonheur.
Il faut que ça bouge. Non, c'est vrai. Nous, les humains, sur cette terre, on prend pour acquis cette vie-là, comme écosystème et autres, tout ça. Il faut qu'on s'améliore le plus vite que... Voilà ce qu'on vit avec la pandémie, Arlette.
Ouais. Alors, on remercie Jennifer Vigneault d'avoir été avec nous. Ouais. Elle a encore plein de choses à dire. Si ça vous intéresse, bien, allez voir sur son site. Et puis écoute des très belles chansons. Donc ce chanteur là, Graine Semée, nous aurons le plaisir de le recevoir.
Tu peux payer son nom, Graine Semée, s'il te plaît.
C'est G-R-E accent grave N et plus loin Semée S-E-M-E accent aigu.
Voilà,
vous savez tout.
Voilà.
Merci beaucoup Maurice Bolduc.
Merci aux
auditeurs, auditrices et aux auditeurs de nous avoir suivis. Puis j'espère que vous avez eu autant d'intérêt que nous à ça.
Ouais.
Merci beaucoup. Au revoir.
Nous on se voit demain.
À demain.